toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Tiffaine de Roquigny et Samuel Bernard, mais aussi Clément Salazar, Anne-Sophie Pierry, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par Anthony Thomasson. Comme chaque vendredi, nous vous proposons un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
On va parler aujourd'hui du Venezuela. Cette semaine, de nouvelles manifestations ont eu lieu au Venezuela. Une vaste mobilisation qui a provoqué mercredi la mort de 3 personnes, un militaire et 2 civils. Hier, les vidéos relayées sur les réseaux sociaux faisaient état de violences toujours extrêmement vives. Et les images de cette nuit laissent craindre le pire. Il apparaît que la tension soit encore montée d'un cran entre les opposants et le régime, avec un président, Nicolas Maduro, qui semble vouloir s'accrocher au pouvoir à tout prix. De son côté, l'opposition est déterminée à poursuivre la mobilisation, persuadée que le régime finira par rompre, comme le pense Enrique Capriles, l'un des leaders de l'opposition, pour qui le gouvernement Maduro est, je cite, « en phase terminale ». Alors le régime pourrait-il finir par tomber? Faut-il s'attendre à ce que les graves violences se poursuivent? Le front chaviste est-il encore suffisamment uni pour se maintenir? Et le pays peut-il se sortir d'une crise politique, institutionnelle, mais aussi économique et sociale dans laquelle il est plongé depuis des mois? Pour évoquer ces questions, deux invités avec nous en studio. René Fregosi, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes philosophe, directrice de recherche en sciences politiques à l'Institut des hautes études d'Amérique latine et puis auteur des Nouveaux autoritaires, justiciers, censeurs et autocrates, qui était paru aux éditions du Moment l'année dernière. Paula Vasquez, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en anthropologie sociale. Vous êtes chargé de recherche au Centre d'études sociologiques et politiques Raymond Aron du CNRS et auteur, vous, du chavisme, un militarisme compassionnel. Oui. Avant d'évoquer ce cas du Venezuela, nous allons, comme chaque vendredi, faire place à notre retour d'eux en partenariat avec l'Association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin revient de Colombie.
Avec le processus de paix, le gouvernement et les FARC ont cessé les combats. C'est bien, mais maintenant, les clans paramilitaires veulent établir leurs lois. Ils sont déjà présents dans 80 à 90% de notre région. On ne se sent pas protégé. Et que fait le gouvernement? Si on installe la paix, ce n'est pas pour qu'un groupe en remplace un autre.
Je ne sais pas ce qui va se passer. Ça me fait peur. J'ai peur qu'ils nous tuent tous. Leur idéologie à eux, c'est juste l'argent.
Bonjour Ibar Aiba.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste, ancien correspondant à Bogota, et on vous reçoit pour ce reportage dont on vient d'entendre un extrait que vous avez co-réalisé avec Hugo Van Hoffel et Étienne Perron, Colombie, la guerre d'après, qui sera diffusée demain sur Arte à 18h35. Alors, quelques éléments de rappel pour les auditeurs. En octobre dernier, les Colombiens étaient invités à s'exprimer lors d'un référendum sur un accord de paix entre le gouvernement et les FARC. Contre toute attente, le non l'avait emporté, de justesse, mais il l'avait emporté quand même, provoquant un peu la surprise générale. On avait eu du mal finalement à comprendre pourquoi les Colombiens semblaient refuser un accord de paix après plus de 50 ans de conflit. Finalement, il y a un autre texte qui a été trouvé avec quelques modifications, notamment sur la question des réparations aux victimes, mais aussi concernant les conditions de restriction de liberté imposées aux guerrilleros responsables de crimes graves. Finalement, ce nouveau texte a été entériné par le Parlement et l'accord rentre progressivement en application. Au début de votre documentaire, Ibar Aibar, on se trouve dans un hélicoptère de l'armée colombienne survolant un territoire anciennement contrôlé par les FARC et que l'armée compte reprendre. Sauf que à terre, les choses semblent un peu plus complexes, un peu plus compliquées. Vous êtes rendu dans la vallée d'Ituango, abandonnée par les FARC. Et aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que d'autres groupes cherchent à récupérer et à prendre le contrôle de ces zones.
Oui, enfin, ces groupes sont déjà en place. Hein. On a du mal à les voir parce que ce sont des civils, ils se déplacent rarement armés. Leur seule présence fait peur. D'ailleurs, les paysans nous disaient on n'a pas besoin d'être menacés par une arme. Ici, ils ont déjà fait plusieurs massacres. Donc, on sait que quand ils nous demandent qu'on agisse de la sorte, eh ben, on obtempère parce qu'on a peur. Leur présence nous fait peur. Ils n'ont pas besoin de venir armés pour qu'on paye les redevances qu'ils nous demandent ou qu'on continue à faire le trafic d'or qu'on faisait avec eux.
Essayons de comprendre qui sont ces groupes. À la tête de l'un d'eux, par exemple, on trouve Antoniel, qui est devenu l'un des plus gros trafiquants, narcotrafiquants du pays. Expliquez-nous un peu le parcours de cet homme, qui il est, pour qu'on comprenne un peu qui sont ces groupes et ce qu'ils sont devenus au cours du temps.
Alors, historiquement, les paramilitaires sont des groupes qui ont été créés et financés en général par les grands propriétaires terriens pour se protéger de l'avance des FARC sur leur territoire. Et puis, rapidement, ces groupes ont pris de l'ampleur et se sont caractérisés par des massacres et ont commencé à mettre la main sur le trafic de cocaïne avec lequel ils se sont financés. Suite à ça, en fait, il y a eu une première fois sous le gouvernement d'Uribe une tentative en fait de déposer les armes et plusieurs d'entre eux se sont rendus et ont commencé un processus de paix qu'on pourrait comparer à celui qu'est en train de faire les FARC. Et malheureusement, une quantité non négligeable est restée dans la clandestinité et a continué à perpétrer l'extorsion, le trafic de cocaïne. Et ce genre de délit. Et en fait, ce sont ces hommes-là qui, de temps en temps, se font attraper. Donc, quand il y a un chef qui se fait attraper, ben, il y en a un autre qui le remplace. En général, c'est le bras droit qui reprend sa place. Et ce sont ces hommes-là. Et on estime qu'il y aurait une quinzaine de groupes paramilitaires opérant sur le pays en ce moment.
Et en gros, pour comprendre les choses, ce que cherchent à faire ces groupes armés, c'est reprendre le contrôle de ces zones pour forcer les paysans à cultiver de la coca.
Alors, ce qui se passe ces deux dernières années, c'est que le prix de l'or a énormément augmenté et en fait, le trafic de l'or est devenu plus rentable que le trafic de cocaïne. Donc, ils ont déjà une bonne partie de la main sur le trafic de cocaïne. Parce que n'oubliez pas que les FARC se sont engagés à cesser de contrôler le trafic de cocaïne qu'ils contrôlaient. Donc, ce trafic-là, il n'est pas perdu. Il a été repris par ces groupes. Mais en ce moment, la vraie guerre, elle se passe autour du trafic d'or, en fait.
On va y revenir sur justement ce trafic d'or, sur ces mines illégales, effectivement, qui se multiplient dans le pays. Mais normalement, les accords de paix prévoient justement que les paysans doivent pouvoir arrêter la production de coca pour se lancer dans autre chose. Qu'est-ce qui est prévu, justement, pour accompagner cette transition et leur assurer quand même une forme de protection, une forme de garantie? Parce que ce qu'on voit dans votre documentaire, c'est des familles qui sont obligées de fuir pour éviter d'être tuées parce qu'on les force précisément à planter de la coca.
Absolument. Alors, c'est pour diverses raisons. En général, ce sont des familles qui ont un des membres de la famille qui dénonce, en fait, la présence des paramilitaires. Et ça, eux, vraiment, les paramilitaires ne veulent vraiment pas qu'on parle d'eux. Et donc, c'est souvent ces familles-là qui sont visées. En général, ils font pas dans le détail. S'ils menacent toute la famille. Donc, c'est souvent comme ça que ça se passe, en fait. Et ensuite, les gens plante de la feuille de coca parce que c'est à peu près la seule chose qu'ils arrivent à revendre. On est en train de parler de régions de Colombie qui sont quand même délaissées par l'État depuis des décennies. Donc il n'y a pas de route, il y a rarement l'électricité qui arrive.
Et l'armée n'est pas là pour les protéger parce qu'on voit à un moment un homme qui s'appelle Costeño qui aide justement ses familles à déménager. Et ce qu'on comprend, c'est que c'est ce qu'on appelle là-bas un leader social. Mais en réalité, il n'est pas du tout mandaté par les autorités publiques.
Non, ce sont des ONG en fait. Ce sont des ONG qui font ce travail pour aider en fait les familles qui doivent fuir et ils tentent aussi de dénoncer l'arrivée des paramilitaires. Mais ce sont des ONG. L'armée, en général, dans ces espaces-là, est cantonnée à un bunker de la police, souvent situé en centre-ville, des petits villages, en fait, dans la place centrale du village, face à l'église, en général. Et ils sortent de temps en temps pour patrouiller, mais les petits villages, les fincas, en fait, ils sont livrés à la loi du plus fort.
Vous rencontrez notamment un journaliste qui s'appelle Lederman Ortiz, qui a déjà été victime de plusieurs attentats, quatre tentatives d'assassinat. Racontez-nous qui il est, qui essaye de le tuer, on l'imagine assez bien. Et comment est-ce qu'il arrive finalement à obtenir des informations, parce que c'est ça le cœur du sujet, il obtient des informations sur leurs organisations criminelles, et puis il publie tout simplement les visages des responsables dans son journal qui s'appelle La Verdad, La Vérité.
Absolument. Alors, en fait, c'est assez simple. Hein. Quand on est, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que dans ces petits coins reculés de Colombie, il y a quand même beaucoup de gens qui risquent leur vie pour dénoncer, pour essayer en fait de ramener la démocratie et la stabilité de l'État dans ces régions. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a souvent des assassinats. Depuis le début de l'année dernière, on est déjà à 156 assassinats de leaders comme Costeño, en fait, qui dénoncent et qui critiquent les paramilitaires. Ce journaliste, en fait, il se déplace. Maintenant des gardes du corps, oui. Mais en fait, les gens leur parlent parce que les gens vivent sous l'oppression des paramilitaires. C'est quand même la loi du plus fort. Ces régions-là, jusque-là, elles vivaient sous la protection, entre guillemets, des FARC, qui faisaient respecter certaines règles. Et maintenant, les nouvelles règles sont imposées par les paramilitaires. Donc il y a plein de gens qui veulent parler. Souvent, ils le font de manière anonyme, hein, ils veulent pas risquer leur vie, ce qui est bien compréhensible. Et donc, Costeño récupère ce genre de... le journaliste Ortiz, récupère ce genre... Ortiz récupère ce genre d'informations et après les publie dans son journal. Et donc, en mettant les photos des responsables de ces groupes paramilitaires qui agissent dans ce secteur.
Ouais, évidemment, tout le monde ne leur parle pas, parce qu'à un moment, ils vous emmènent dans une maison qui est un peu reculée, dans un ancien territoire contrôlé par les FARC. Vous pénétrez dans le bâtiment, le sol est souillé de sang, on voit ça et là des sous-vêtements qui gisent sur le sol. Et Lederman nous explique que tout simplement, il s'agit d'une maison de torture, c'est-à-dire
On appelle ça le casa de pique, qui veut dire littéralement une maison où l'on pique. Et piquer en Colombie, ça signifie découper le corps, en fait. Hein, c'est une technique que les paramilitaires ont développé dans les années 2000, hein, en 1990-2000. Et c'est, je démembrais les corps pour les jeter dans les rivières ou pour les enterrer, pour pas laisser de traces des assassinats. Et les maisons des piques, elles sont en fait des maisons de torture, hein, où on torture souvent jusqu'à la mort, et après, on découpe les cadavres et on les jette à la rivière.
Ouais, et là, évidemment, les gens qui habitent dans le village à côté, en revanche, ne disent absolument rien. C'est la peur qui les rend totalement muets.
Nous, on n'aurait pas pu se rendre dans ce village sans la protection des militaires. C'était impossible.
Je voudrais savoir ce que fait l'armée très concrètement pour lutter contre ces groupes paramilitaires. Est-ce qu'elle a la volonté et est-ce qu'elle a les moyens de ne pas laisser ce terrain libre?
Alors, le gouvernement, par exemple, a mis 5 millions de dollars pour la tête d'Otoniel. Hein, donc, voilà, c'est une information. Il tente de se battre contre ce nouveau fléau. Ils ont été déclarés le nouveau fléau et la nouvelle priorité de l'armée et de la police colombienne. Après, on est quand même face... les estimations nous parlent de 10, 12 000 hommes armés qui forment ces groupes de paramilitaires. Et comme ils récoltent beaucoup d'argent grâce au trafic de cocaïne et au trafic de l'or également, ils payent des policiers, des avocats, des députés, des maires, et pour s'acheter une tranquillité en fait. Et
pour s'acheter l'impunité, c'est ce que vous dit d'ailleurs un homme que vous rencontrez à Medellín, qui est un universitaire, qui s'appelle Fernando Querano, qui est un spécialiste de ces groupes paramilitaires, et il vous explique qu'en fait tout le business, quel qu'il soit, que ce soit l'or, que ce soit la coca, que ce soit la prostitution, le crime, etc., tout ça sert à acheter l'impunité et la protection d'officiels.
Absolument. C'est pour ça que les actions de la police sont parfois difficiles, parce que c'est très facile de trouver quelqu'un qui va coopérer avec ces bandes criminelles pour des sommes énormes.
Mais je reviens à l'armée. Vous avez eu l'occasion justement de suivre le travail, l'action de l'armée. Est-ce que vous avez l'impression justement d'avoir accès à tout finalement, ou est-ce que vous sentiez qu'il y avait un souci de contrôler l'information, de ne pas vous laisser accès à tout, de ne pas tout vous montrer?
Bon, l'armée, c'est toujours l'armée, donc ils veulent toujours nous contrôler quand on travaille, donc ils essayent toujours un peu de voir exactement ce qu'on veut faire. Mais en tout cas, nous, quand on s'est déplacé dans le pays, d'ailleurs avec eux, ils nous ont emmenés sur des opérations. On a trouvé des plantations de coca qu'après qu'ils ont arrachées. On a trouvé des mines clandestines d'or, par exemple. Mais la seule fois où nous on a vu des gens travailler dans les mines d'or, c'est quand on y est allé seul avec nos propres contacts. À chaque fois qu'on est arrivé avec l'armée, il n'y avait plus personne en fait. Il y avait bien quelqu'un dans le groupe qui avait balancé notre venue. Quoi.
Alors justement sur ces fameuses mines d'or, parce que c'est la nouvelle manne pour ces groupes armés, c'est en train de prendre de plus en plus d'importance face à la coca qui évidemment historiquement finançait majoritairement ces groupes armés. C'est un changement assez radical de modèle économique, je mets des guillemets évidemment, pour ces groupes armés. Auparavant, c'est vrai que c'était ce qu'on appelait la gramaje, c'était la taxe sur la coca qui finançait assez largement ces groupes. Finalement, qu'est-ce que ça change du point de vue du financement de ces groupes que de se tourner comme ça vers des mines illégales? Est-ce qu'il y a un risque quelconque pour ces groupes de se retrouver avec un problème de financement?
Alors oui, oui et non, c'est-à-dire qu'en fait ils n'ont pas lâché la coca, hein. Ils continuent à faire la coca, mais
ils se diversifient
et avec l'or, ce qui est très intéressant, c'est que dès que le gramme d'or ou le kilo d'or est acheté, il devient légal, hein, parce que il n'y a pas de traçage et on peut donc aller le déposer à la banque, le revendre, donc l'or se blanchit très très vite, hein. Dès qu'il est sorti de la mine, il est propre. Donc c'est un avantage certain. Et effectivement, c'est un revenu duquel ils tirent le cash pour payer en fait leurs soldats. En fait, hein. Mmh. C'est comme ça qu'ils se financent. Non, moi, j'ai pas eu la sensation qu'ils sont en train de perdre la partie pour le moment.
Mmh. Et pareil, vous expliquez qu'aussi dans les bidonvilles dans lesquelles vous êtes rendu, notamment du côté de Medellín, on voit aussi les gangs qui, en fait, travaillent tous pour différents groupes armés. Ils assurent notamment, évidemment, la distribution de la drogue, mais pas seulement. Et en fait, paradoxalement, c'est ce que vous raconte l'un des hommes, les différents gangs se sont vus imposer d'une certaine manière une forme de trêve par les groupes paramilitaires. L'ordre et la discipline a été imposée d'en haut par les quelques groupes paramilitaires. On en compte une douzaine environ, hein.
Oui, alors c'est une trêve parce qu'ils se sont rendus compte que les guerres internes n'étaient pas bonnes pour le business. Ça, c'est vrai que cette partie-là, en fait, ça c'est Hugo Van Hoffel, il avait un contact pour qu'on puisse avoir accès à ces gangs. Donc ça a pris un peu de temps et finalement, ils nous ont reçus. Mais c'est vrai que c'était le côté le plus compliqué, en fait, parce que comme la guerre a été déclarée contre eux et que tout le monde se regarde en chien de faïence, c'était un petit peu difficile d'avoir accès à ces gangs. Donc finalement, voilà, on a réussi à les avoir, mais effectivement, les chefs ont décidé qu'il fallait plus se battre dans les quartiers parce que c'était pas bon pour le business, tout simplement.
Alors, on comprend, vous nous le dites, finalement, le modèle économique de ces groupes armés n'est pas vraiment en péril. Tout cet argent qui en découle leur permet de gagner cette impunité, d'acheter des policiers, des juges, des politiques, des fonctionnaires. On comprend que cette corruption, elle permet finalement de protéger ces paramilitaires et que la paix ne peut pas se faire pour le moment. Si je reviens à mon propos de départ avec ce référendum d'octobre dernier où les Colombiens s'étaient exprimés majoritairement contre cet accord de paix, est-ce que vous pensez qu'il faut voir ce refus comme au fond la conviction chez les Colombiens que cet accord n'est pas en mesure de garantir la paix promise ?
Je suis pas sûr parce que maintenant ils sont plutôt partants pour cet accord de paix. Je crois qu'il faut faire un peu la différence. Les FARC à cette époque avaient vraiment une très mauvaise presse. Personne ne croyait qu'ils allaient aller au bout de l'accord. C'était le problème. En fait, historiquement, il y avait déjà eu une première tentative et à la dernière minute, ils avaient claqué. Enfin, ils étaient partis de la table des négociations. Donc, je pense que les Colombiens avaient peur de ce cas de figure. Maintenant, ils sont plutôt contents avec ça. C'est assez différent de ce qui est en train de se passer avec les groupes paramilitaires. D'ailleurs, la violence qu'on vit de ces derniers mois, elle est aussi due parce que Otoniel a demandé, enfin le clan Usuga, donc maintenant appelé clan du Golfe, ont demandé d'avoir un processus de paix similaire à ceux des FARC. Et le gouvernement l'a refusé parce qu'effectivement, les paramilitaires ils n'ont pas d'idéologie derrière, si ce n'est, comme le dit notre personnage dans le sujet, celle de l'argent. Mmh. Et ça a été une des raisons. Mais je ne crois pas que les Colombiens, enfin je pense que les Colombiens, la majorité des Colombiens aujourd'hui est pour l'accord de paix avec les FARC. Mmh.
Merci beaucoup Ibar d'être passé dans nos studios. On voit que du côté de la Colombie, malgré cet accord de paix, la guerre n'est pas garantie. Colombie 2. La guerre d'après, c'est justement le titre de votre documentaire qu'on pourra voir demain sur Arte à 18h35 dans Arte Reportage, c'est bien ça?
C'est bien ça, c'est pas bon, on était plusieurs à le faire. Hein. Hugo Bonhoeffel et moi, on était sur le terrain et on l'a fait pour Alta Press.
Merci beaucoup Ibar. Colombie, la guerre d'après, ce sera demain sur Arte. Merci infiniment. La Colombie pour se diriger du côté du Venezuela après les nouvelles mobilisations contre le président Maduro. Venezuela, le régime est-il sur le point de s'effondrer? C'est la question qu'on se pose ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Depuis des mois, le pays traverse une crise multiple, institutionnelle, politique, mais aussi économique et sociale. Et ces derniers jours, une série de mobilisations a encore secoué le pays.
La garde nationale le sait, la police nationale aussi, les soldats le savent. Cette lutte, c'est aussi pour eux, parce qu'eux non plus n'ont pas assez de quoi se nourrir. Eux non plus ne se sentent pas en sécurité. Eux aussi vivent dans la misère. Et c'est pour eux et tous les Vénézuéliens que nous continuerons à descendre dans la rue le temps qu'il faudra.
Cette partie de l'histoire, nous l'écrivons maintenant. Rien ne nous dit que c'est impossible. Nous sommes à la majorité et nous voulons plus. Et ce pays, même s'ils ne le veulent pas, nous allons le changer.
El pueblo unido jamás será vencido, criaient les opposants au régime ce mercredi lors d'une énorme manifestation dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux sur laquelle on aperçoit une marée humaine poussée par des tirs de grenades lacrymogènes. À l'origine de cette nouvelle mobilisation entamée début avril, la décision de la Cour suprême de s'arroger les prérogatives du Parlement, une décision qui a déclenché un tel tollé qu'elle a dû faire machine arrière deux jours plus tard, mais la mobilisation, elle, se poursuit. Face à cette mobilisation, justement, les militaires ont opposé une réponse extrêmement brutale, provoquant même la mort de deux jeunes étudiants et peut-être d'autres, en tout cas lorsque l'on voit les vidéos de cette nuit. Jusqu'où la situation pourrait-elle se détériorer? Le régime pourrait-il finir par plier? Voilà la question qu'on va se poser ce matin. Paola Vasquez et René Frégosi sont nos invités ce matin. Marc Semo, notre partenaire du Monde. On va commencer avec vous, Marc, comme on le fait chaque semaine. Ça fait des mois, bien sûr, Marc, que on parle régulièrement du Venezuela, qui est empêtré dans cette crise, cette grave récession, des pénuries de plus en plus nombreuses, une hyperinflation inquiétante. Sur le plan institutionnel et politique, la situation s'était dégradée avec la victoire de l'opposition aux élections législatives en décembre 2015. Malgré les deux tiers des sièges dont elle dispose au Parlement désormais, la Cour suprême est utilisée de façon systématique pour lui faire barrage. Mais jusqu'ici, même s'il y avait eu des violences qui avaient déjà provoqué des morts, on avait l'impression que finalement la pression finissait toujours par redescendre et que la population faisait le dos rond. On a le sentiment désormais, en tout cas c'est celui que j'ai moi, en ayant regardé un certain nombre d'informations, notamment sur les réseaux sociaux, même si évidemment c'est comme toujours avec ces réseaux sociaux, on manque beaucoup d'analyse, mais tout de même, on a le sentiment qu'on a atteint un régime de violence qui va être extrêmement difficile de quitter. Quand on voit les images de ces manifestations, quand on voit la brutalité de la répression, on sent que peut-être on est là à un moment de basculement.
Oui, c'est possible, c'est peut-être même probable. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien de plus dangereux qu'un dictateur aux abois, surtout quand il est faible. Et Nicolas Maduro, du propre aveu de ses partisans, ce n'est pas Hugo Chavez. Alors, en revanche, dans ce bras de fer, dans cette pression maximum que met l'opposition, il y a l'extraordinaire maturité de l'opposition. L'opposition, alors pour reprendre les propos d'un de ses leaders, voire son leader, Enriquez Capriles-Rodonski, qui alors lui ne peut pas se présenter à la présidentielle parce qu'on lui a retiré ses droits civiques pour une amende de 10 dollars et pendant 15 ans il n'a plus de droit politique, dit voilà, la négociation et le dialogue sont l'essence même de la politique. Et donc eux, ce qu'ils demandent, hein, ils restent dans cette logique de dialogue, et eux, ce qu'ils demandent, ce sont des élections libres sans candidature interdite. Ils demandent la libération des prisonniers politiques, des canaux humanitaires pour aider la population, et surtout de rendre à l'Assemblée ses attributions. Hein, tu le disais toi-même, l'Assemblée aujourd'hui en majorité tenue par l'opposition. Voilà. Et on est donc c'est peut-être une des chances qui reste d'éviter le pire. Et maintenant, la question, effectivement, c'est de savoir, est-ce que dans le camp du pouvoir, les fêlures vont commencer à réellement s'ouvrir.
Et on commence d'ailleurs à les entrevoir. On va évoquer évidemment cette question de l'opposition que vous disiez particulièrement mature, peut-être la fragilité évidemment du front chaviste. Mais je voudrais commencer avec vous, Paola Vasquez. Vous êtes, vous, d'origine vénézuélienne. Juste une impression sur ce qui est en train de se passer. Je sais que vous avez suivi les dernières heures, les évolutions. J'ai le sentiment, moi, mais je voudrais vous entendre là-dessus, qu'on a atteint une forme de point de non-retour là. Votre opinion là-dessus.
Surtout pour revenir par rapport à cette question de la justice contre l'Assemblée. L'Assemblée, elle est toujours un outrage pour les systèmes du gouvernement. C'est-à-dire, ils n'ont pas revenu sur l'accusation d'outrage à l'Assemblée nationale. Mmh. Et les députés sont toujours sans immunité parlementaire. Donc, les députés peuvent être tués, emprisonnés. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est une question de facto. C'est-à-dire, c'est comme si cette ambiguïté, ils font le coup de revenir en arrière, mais pas complètement et pas sur le fond non plus. Donc, ils jouent.
Deux pas en avant, un pas en arrière.
Exactement.
Donc, on a quand même gagné un pas.
Donc, c'est très difficile pour comprendre ça au niveau international. Et l'autre chose, c'est que oui, on est en face d'un niveau de violence inouï de la part des corps de sécurité de l'État par rapport à 2014. Je pense que c'est ça la différence que vous voyez, car on est devant une sorte de fusion des corps militaires, paramilitaires et des sécurités qui s'acharnent contre la population d'une manière impressionnante. Les cas, par exemple, de jeter des bombes lacrymogènes depuis les hélicoptères sur la manifestation, cette sorte de, c'est pas la répression d'une manifestation, c'est la chasse à l'opposant. C'est-à-dire, c'est l'utilisation du fusil des bombes lacrymogènes comme une arme à feu qui peut tuer quelqu'un, comme ça a été le cas, ou c'est pas la question des balles en plastique, mais l'utilisation des balles en plastique corps à corps. Et donc là, on est cet acharnement, il est extraordinaire, et aussi il y a un
volume. C'est pas seulement les bombes lacrymogènes, hein, pardon, mais l'un des jeunes qui a été tué ce mercredi, qui s'appelait Carlos José Moreno, il a été tué d'une balle en pleine tête.
Oui, parce que ça, c'est les collectivos. Là, je vous parle des corps, parce qu'il y a plusieurs corps. Donc les collectifs, ce sont les paramilitaires créés par Chavez depuis les débuts de la révolution, qui ont dérivé et que je me rappelle très bien avoir dit dans ces plateaux qu'un chef des collectivos a dit à la télé vénézuélienne en 2014 que l'origine des armes des collectivos était un secret militaire. Eux qui ne sont pas encore militaires, ils sont armés par les gouvernements, par CAVIM, par l'entreprise des forces armées qui fournit les armes à feu. Et donc ça c'est des corps paramilitaires qui agissent en toute impunité, parce qu'ils ne sont pas réprimés par les forces de l'ordre lorsqu'ils agressent à l'opposition. Donc on est dans un scénario de confrontation et presque des guerres civiles, sauf que l'opposition n'est pas armée.
Oui. On va en venir évidemment à l'analyse politique, mais René Frégosi, je voudrais aussi vous entendre sur le moment présent, sur ce qui est en train de se passer, et sur l'hypothèse peut-être de voir le régime s'effondrer, et peut-être en particulier sur une question qui sera décisive pour voir si effectivement il va s'effondrer ou pas, c'est la position de l'armée. Est-ce que l'armée pourrait finir par lâcher le pouvoir? Parce que pour le moment, si le régime se maintient, c'est bien grâce à l'armée précisément. René Frégosi.
Oui, je ne sais pas si on va m'entendre, et ma voix m'oblige à avoir le ton de la confidence, alors que mon sentiment est plutôt à l'indignation face à la répression de cette dictature chaviste sur l'opposition qui, comme l'a dit fort justement Marc Semeau, est une opposition majoritairement de gauche, centre-gauche. Et c'est pourquoi elle a une position aussi raisonnée, aussi raisonnable et aussi stratégique. L'opposition cherche des partenaires pour négocier une sortie pacifique de cette dictature. Le problème de l'armée, alors bien sûr, en général, dans les dictatures, lorsque les dictatures, le bloc dominant se fissure, comme l'a évoqué Marc Semeau, il y a des éléments généralement de l'armée. Au Chili, c'était notamment le général Mattei qui s'est dissocié du pouvoir pinochétiste. Aujourd'hui, le problème de l'armée, c'est que le pouvoir chaviste, avec l'aide des Cubains, qui ne sont pas tombés de la dernière pluie, l'armée a été épurée systématiquement, très régulièrement, de tous ces éléments susceptibles d'être justement des partenaires pour négocier une sortie démocratique, vers la démocratie. Donc, c'est vraiment l'inconnu. Et lorsqu'on parle de guerre civile, Paola Vasquez l'a dit fort justement, la guerre, elle est du côté du gouvernement. C'est le gouvernement qui mène la guerre contre son peuple. Lui, le peuple, l'opposition, elle n'est pas armée, elle refuse la guerre civile. Elle veut la négociation. Le problème, c'est ce gouvernement qui est adossé au pouvoir cubain, qui lui-même est une dictature. Et donc, ça va être très difficile de négocier une transition à la démocratie avec les Cubains qui ne sont pas pour la démocratie.
Je vous donne la parole tout de suite, Marc Semeau, mais je voudrais poursuivre un tout petit peu sur la question de l'armée, parce que effectivement, c'est assez décisif. Moi, j'ai regardé encore une fois sur les réseaux sociaux, j'ai vu par exemple une vidéo sur laquelle on voit des militaires, alors évidemment pas des hauts responsables, mais des militaires dénoncer la violence de l'armée dans des vidéos alors qu'ils sont en uniforme. On a le général Vladimir Padrino López, qui est le ministre de la Défense, qui reste relativement silencieux. Certains voient d'ailleurs ce silence comme peut-être une loyauté qui est de moins en moins claire vis-à-vis du régime. Votre opinion, Paola Vasquez, et je vous donne tout de suite la parole, Marc Semeau. Paola Vasquez sur l'armée.
Oui, il approuve la milice.
Ces derniers jours, il n'a rien dit.
Sur la milice, il a dit sur la non, il a dit on va défendre les gouvernements, c'est-à-dire pas la constitution mais le gouvernement. C'est-à-dire c'est extrêmement inquiétant, Padrino López. Je pense que tout au contraire, là on voit bien que le gouvernement de Maduro c'est un gouvernement militaire. Le chavisme est un gouvernement militaire, donc dans le titre de mon livre, La compassion, là, elle a complètement disparu. Il reste que les militaires pour soutenir cela. Et regardons la question de la milice, que c'est un corps des civils volontaires créés par Chavez, recrutés à partir des adhésions politiques, et que là, on a promis un 500 000 fusils pour la milice il y a 3 jours, c'est-à-dire armés des miliciens civils. Pour lutter contre qui alors? Contre l'opposition.
Parce que c'est un plan qui a été annoncé par Maduro.
C'est un plan qui a été annoncé par Maduro et défendu tout de suite par Padrino López, qui a dit une chose fausse au niveau d'histoire, que Bolivar aussi avait approuvé la milice en 1897, et Bolivar il est mort en 1830. Donc là, un petit problème historique. Mais cette justification de la milice par les forces armées, c'est extrêmement inquiétant, parce que c'est approuvé qu'un corps qui n'est pas professionnel et qui est encore moins préparé pour réprimer des manifestations civiles soit utilisé donc contre la population.
Ce que vous laissez entendre, c'est que le régime Maduro n'a peut-être même pas le contrôle en réalité de la situation.
C'est possible,
Marc Semo.
Oui, mais on peut aussi imaginer que si l'armée d'ailleurs approuve la milice, c'est une manière aussi de dire qu'elle ne veut pas faire le sale travail elle-même et quelque part rester en réserve. Parce que la question que je voudrais poser, toutes les transitions des dictatures se sont toujours faites avec des bouts de la dictature défunte.
Absolument.
Avec une, on l'a vu en Europe de l'Est, au moment de la table ronde en Pologne, on l'a vu même dans les pays où les régimes étaient les plus déments, type l'Albanie, de l'ex-Europe de l'Est. Donc, est-ce que finalement, aujourd'hui, et c'est la stratégie de l'opposition, plus ou moins, est-ce que ça, il y a un espace que l'on peut imaginer là-dessus? Il y a un certain nombre de pays qui se posent en médiateurs. L'Église a tenté de jouer les médiateurs. Dans celui qui n'est pas très christianisé, assez syncrétique, elle a quand même un certain prestige. Est-ce que ça reste une issue, disons, plausible?
La fissure qui est évidente, c'est par rapport au parquet et ce qu'on appelle les ministères publics, les parquets représentés par Luis Ortega López. Donc, Luis Ortega Díaz. On ne sait pas. Parce que c'est elle qui est revenue en arrière, c'est elle qui refuse de mobiliser les parquets pour les procès des opposants, des manifestants arrêtés. Ils sont tout de suite passés à des tribunaux militaires. C'est pour ça que la question, c'est, il n'y a pas de jugement civil, des procès civils aux arrêtés dans les manifs. Ils sont passés à des tribunaux militaires comme dissidents. C'est une situation. Donc là, apparemment, Madame Ortega, elle n'est pas d'accord. Or, jusqu'où elle a le pouvoir de faire valoir une fissure au sein du gouvernement de Maduro, qui est derrière elle?
Ortega,
vraiment,
la procureure générale de la République.
La procureure. C'est la procureure. Elle joue le jeu de dire, on va quand même respecter les institutions, on va pas approuver la répression avec des armes à feu à des manifestants pacifiques. On ne juge pas, on fait pas des, et elle refuse de prendre donc les procès des arrêtés lors des manifestations. Donc, on peut jouer, penser à la fissure. Mais il y a aussi un autre danger, c'est que ce ne soit pas uniquement une sorte de montage, de générer une telle situation de violence avec les collectifs et les milices pour suspendre les garanties constitutionnelles, déclarer un état d'exception, et puis c'est fini. Et c'est fini la négociation, et c'est fini l'Assemblée, et c'est fini tout. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un danger aussi possible, et c'est un autre scénario envisagé par l'aile extrémiste la plus dure, peut-être celle de Diosdado Cabello.
René Frégosi, sur cette hypothèse proposée par Marc, qui est que finalement l'opposition pourrait parier sur une partie du front chaviste qui est en train en réalité de s'étioler pour engager un processus de d'évolution, un processus de transformation vers un autre régime.
Marc a totalement raison. On l'a observé dans toutes les transitions à la démocratie, je vous prie de m'excuser pour ma voix. Mais bon, tant que je suis audible, je parlerai, pour le Venezuela, pour la démocratie au Venezuela. En effet, toutes les transitions ont lieu parce que le bloc dirigeant se fissure. Le problème des régimes autoritaires en général, que c'est été à l'Est ou à l'Ouest, de toute façon, c'est l'opacité du régime. Donc il est très difficile nous de l'extérieur, d'arriver à déceler ces fissures, à identifier les groupes. On sent bien qu'il y a des groupes qui s'affrontent, mais qui est qui ? Et en plus, ils changent de position. Ils n'ont pas des positions très stables. Et quand bien même y en aurait-il qui auraient des positions de los blandos, ceux qui sont en faveur de l'ouverture, ils ne vont pas se découvrir. Et nous-mêmes, même si nous le savions, nous n'irions pas le dire parce que ce serait compromettre leur action en faveur d'une négociation pour la démocratie. Donc, c'est
certains
extrêmement
s'expriment, certains s'expriment. Luisa Ortega, la procureure générale, s'est exprimée. On a l'ancienne ministre de Chavez, Maripili Hernandez, qui elle aussi a fait sentir clairement qu'elle se désolidarise
du régime. On peut tout à fait espérer. Et il y a certainement, et notamment aussi au sein de l'armée. Mais si vous voyez, vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a à la fois des SA, des SS, des bataillons 101. Vous avez toutes les formes de l'opposition d'un régime le plus totalitaire et répressif qui soit, avec, évidemment, chacun tirant à hue et à dia, et avec certainement, au sein des forces armées, comme dans la Wehrmacht de l'époque, vous avez des gens qui veulent faire tomber la dictature. Donc, il va y avoir moyen, j'espère, ou sinon, ça va être, comme l'a dit Paola Vasquez, l'hypothèse d'une violence extrême et d'une répression extrême n'est hélas pas à exclure. C'est pourquoi l'Amérique latine se mobilise, c'est pourquoi l'OEA se mobilise, et c'est pourquoi Luis Almagro, qui est un socialiste uruguayen, se mobilise en faveur de la démocratie aujourd'hui.
Alors, juste sur ce point, parce qu'il devrait, il pourrait bientôt y avoir des élections au niveau des gouverneurs et des municipalités. Et là, l'avalanche électorale de l'opposition risque d'être encore plus forte.
Sauf que là, ces élections ont été suspendues.
Ils refusent de fixer la date.
Ils refusent de fixer la date. Mais est-ce que justement, ce n'est pas ça qui pourrait aller dans le sens de précipiter l'épreuve de force, l'état d'exception avec les ministres
C'est ça le contenu de cette phrase vide. C'est le contenu de la phrase vide. Respecter la Constitution. Respecter la Constitution, ça veut dire quoi? Ça veut dire fixer la date des élections régionales dans lesquelles le chavisme va perdre. Est-ce que ces gouvernements acceptent d'être en minorité? Est-ce qu'ils vont accepter? Parce qu'ils ne l'ont pas fait avec l'Assemblée nationale, parce qu'ils ont torpillé systématiquement l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas d'être en minorité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Et il y a aussi l'accrochage des militaires à un système économique extrêmement important. Rappelons-nous que PDVSA, la compagnie pétrolière vénézuélienne, est dans une très mauvaise situation et que les militaires ont créé une sorte d'organisme parallèle pour exploiter le pétrole. En plus, ils s'enrichissent avec les trafics d'essence à la frontière, que c'est les collègues tout à l'heure interviewés, que je pense que ça va sortir dans le documentaire, son documentaire peut-être, et la question de l'or et des mines, c'est-à-dire la manne économique qui gère les militaires vénézuéliens, elle est inimaginable pour la faire laisser partir dans une situation de négociation, etc.
Et est-ce qu'il n'y aurait pas un autre scénario qui serait envisageable, qui serait celui où finalement Maduro lâcherait le pouvoir et serait remplacé par un autre, et où finalement il n'y aurait absolument aucune transition?
Oui, ça peut être
il pourrait y avoir
pire.
Ce type de négociation.
Au Venezuela, ça peut être toujours pire, en plus. Donc, c'est ce qu'on a appris.
On fait croire qu'en fait le régime tombe, mais en fait on remplace par un autre, et en fait rien ne bouge.
Oui, parce que le problème, c'est pas la personne de Maduro. Certes, il est beaucoup moins brillant, beaucoup moins intelligent que Chavez, et beaucoup plus peut-être dans les mains encore des Cubains. Mais c'est pas le problème de la personne, c'est le problème du système, du régime, et effectivement des réseaux de corruption, des réseaux mafieux, qui sont liés d'ailleurs aux réseaux mafieux aussi de Colombie notamment. Et donc c'est tout un système qui est en place. Maduro n'est que la figure publique de ce système mafieux. Donc, c'est extrêmement difficile d'en sortir parce que c'est un système très puissant financièrement et militairement.
Et ce qu'on est en train un peu de voir, c'est la fin de la mascarade, de la façade démocratique. C'est l'effondrement de la façade démocratique, parce qu'avant, il y avait ces institutions qui avaient l'air de fonctionner. La légitimation par les votes, combien de fois, c'est une démocratie à cause des élections. Donc là, c'est l'effritement de l'Assemblée nationale par cette Cour suprême, que c'est un point très intéressant, parce que ces magistrats-là ont été élus, normalement c'était l'Assemblée d'opposition qui devait les élire, et non, ils ont été élus par le pouvoir exécutif avant que l'Assemblée prenne position. Et qui sont ces gens-là? C'est des anciens députés du PCUV. Ça a été évoqué lors de la réunion de l'Union interparlementaire qui a eu lieu il y a 2 semaines à Bangladesh, que le président dit, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Comment c'est possible que des anciens députés, des personnes qui étaient députées un mois auparavant, soient après nommées magistrats du tribunal? Quelle est l'indépendance des pouvoirs qu'il y a au Venezuela? Donc ça, là, on voit l'effritement de la mascarade démocratique des institutions qui tombe en morceaux, et c'est les rois nus qu'on voit.
La même chose pour le référendum révocatoire. Mmh. Tout le monde, en France, il y a tellement de gens qui sont en faveur de ce référendum révocatoire des élus. Mmh. Eh bien, lorsque l'opposition s'en est emparée pour mettre en œuvre, ils avaient toutes les signatures qu'il fallait, eh bien le pouvoir a dit « Ah non, 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 pas de référendum révocatoire. Quand c'est pour eux, ça marche pas. »
Je voudrais qu'on en vienne, si vous voulez bien, à l'opposition. Tout à l'heure, Marc décrivait une opposition extrêmement homogène. Je voudrais peut-être...
Mature.
Alors, moi, je vais poser la question de l'homogénéité ou de l'hétérogénéité.
Ouais,
parce que donc cette opposition, elle est réunie au sein de ce qu'on appelle la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática. Donc, la table de l'unité démocratique a été créée en 2008. On y trouve plusieurs partis d'opposition. Il y a la volonté populaire créée par Leopoldo López, aujourd'hui en prison. Il y a Primero Justicia d'Enrique Capriles, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est au centre, alors centre droit, ni certains, centre gauche, ni d'autres, peu importe, à peu près au centre. Mais on voit que finalement, ce front anti-chaviste, moi, je qu'on interroge effectivement son caractère homogène ou pas, parce que la question qui se pose, c'est est-ce qu'il serait en capacité ou non d'engager la transition, de créer, pourquoi pas, un gouvernement du nom national. Je voudrais qu'on mette cette question au cœur de nos interrogations à présent. Paula Vasquez.
Ils ont uni par la crise, et ça, c'est un peu le paradoxe et l'ironie de l'histoire, que c'est lors de cette crise qu'il y a une union qu'on ne pensait pas qu'elle pouvait se voir, en tout cas au niveau médiatique. Par exemple, on a vu à côté Maria Corina Machado avec Capriles. C'est des choses qu'on n'envisageait pas. Donc c'est ça le paradoxe de la chose. Le gouvernement, avec ça, a créé une union très forte.
Mais est-ce que ça suffit à créer un gouvernement d'union nationale derrière?
Mais ce qui est intéressant surtout, parce que comment les Vénézuéliens voient la chose? Qu'est-ce que les gens me disent? Ils disent, mais pour une fois, on voit nos députés qui sont aussi en train de respirer les lacrymogènes, qui sont aussi tabassés comme nous, qu'on lui a cassé la tête. Donc, les 56 points de suture dans les fronts du député Juan Requesens, ça a été l'événement politique, parce que lui aussi, il s'est fait tabasser. À eux aussi, on les tape. Ils n'ont pas de garde-corps. Donc, cette sorte de vision des gens qui sont très proches d'une réalité quotidienne, qui vivent l'abus du pouvoir, qui vivent la répression, etc. Ça donne la sensation aux Vénézuéliens qu'ils sont un peu accompagnés. Donc, comment ça va évoluer, c'est difficile à dire. Il faut avoir un programme, une posture, des négociations, etc. Mais pour l'instant, pour l'opinion publique vénézuélienne, je n'ai pas dit que je sois d'accord, parce que... ce que j'ai dit pour achever un peu cette illusion, c'est que les gens se fatiguent, les gens ont besoin de se reposer, les gens ne peuvent pas être en train de... En fait, la politique ne peut pas être réduite à une confrontation corps à corps. Mais c'est ça qui a amené le gouvernement. Donc là, il y a une sorte de renaissance et d'apparition de nouveaux leaders et de nouveaux visages et des gens de nouvelles générations, d'une certaine manière. Et on va voir, il faut leur donner le temps de...
René Frégosier, est-ce que vous y croyez?
Je crois que, excusez-moi, la solidarité dans la lutte et la souffrance commune de cette répression du régime a considérablement soudé les éléments divers et très hétérogènes de cette messe. De cette table d'unité
démocratique.
Mais
est-ce que ça suffit, René Frégosi? Évidemment, tout le monde est uni contre Maduro. Mais ensuite, quand il s'agit de mettre en place un programme, un projet, une vision commune, est-ce qu'on va pouvoir se mettre d'accord?
Les démocrates chrétiens chiliens et les socialistes chiliens, la démocratie chrétienne avait approuvé le coup d'État de Pinochet et contre les socialistes. Et ensuite, eh ben, ils ont gouverné quasiment 20 ans ensemble dans la concertation, alors qu'ils sont des opposants politiques historiques. Hein. Bon, ça, lorsqu'on a lutté ensemble contre une dictature et un programme, ils l'ont. Il y avait le programme de la candidature présidentielle de Enrique Capriles, qui avait été vraiment fait collectivement et qui était un programme très à gauche, hein, très social-démocrate. Donc vraiment, là, moi, je ne suis pas tellement inquiète de ça.
Vous y croyez.
Le problème, c'est comment sortir, comment négocier.
René Frédégozzi, si on revient justement, effectivement, Enrique Capriles a compris qu'il y a une partie de la population vénézuélienne qui a cru dans Chavez, qui a considéré les programmes sociaux et autres comme des choses qui lui ont donné la dignité, et que remettre en cause ça, ça serait suicidaire. Et ça, c'est son intelligence politique. C'est pour ça qu'on l'a mis hors jeu pour la présidentielle, parce qu'il a toutes les chances d'être élu. Mais quand même, il y a dans cette opposition toute une partie qui est extrêmement revanchiste. Alors, est-ce que, bon, maintenant, d'accord, on est tous unis sous les matraques, mais est-ce que vraiment ça peut tenir?
La question, c'est de se compter, parce que l'opposition revanchiste, je ne pense pas qu'elle emporterait les élections. Je sais, c'est ça, justement, c'est la question.
Mais elle est dedans. Elle est dedans.
Mais il y a volonté populaire aussi, qu'on ne sait pas la revanche. La question, c'est quel est le statut, en fait, l'essence de la justice dans ces pays. Quel est-il? Quelle justice on réclame? Il y a cette justice de la justice sociale qu'elle s'effondrait, que c'était la bannière du chavisme, mais l'autre justice, on se demande si les gens qui ont commis des exactions, qui sont des corrompus, qui sont dans les Panama Papers, on se demande est-ce qu'ils vont être jugés, parce que c'est ça, c'est pas parfois une question, il y a bien sûr la revanche, mais il y a une soif de justice à juste titre aussi. Donc, est-ce qu'il y aura une répatriation des capitaux, par exemple? C'est une belle question qu'on se pose parfois, parce qu'il y a des milliards de pétrodollars vénézuéliens dans tous les comptes du monde, à Panama, en Andorre. Donc, on se demande, une chose, c'est la revanche, oui, c'est sûr, c'est celle de, surtout des collectifs, c'est l'état d'État, il est très marqué par ce type de violence, mais il y a des gens qui réclament vraiment la justice.
René Frégozzi, que peut faire, que doit faire la communauté internationale?
La communauté internationale, c'est à la fois très important et pas forcément très efficace. Hein. Donc c'est très important, notamment que l'OEA, l'Organisation des États américains, ait aujourd'hui pris position très clairement, donc en s'appuyant sur la charte démocratique de l'organisation et en demandant instamment au gouvernement vénézuélien de respecter cette charte démocratique dont ils sont à mille lieues, hein, mais au minimum de ne pas réprimer les manifestations pacifiques. Vous voyez bien que ça n'a guère d'effet. Bien entendu, ça ne suffit jamais. Le travail diplomatique est absolument nécessaire. Symboliquement, c'est très important que les Latino-Américains rompent enfin la solidarité traditionnelle latino, surtout face à ce discours éculé, complètement fantasmatique, à la fois des Cubains et du pouvoir chaviste, c'est l'impérialisme américain. Surtout, c'est pas l'impérialisme américain qui est dans les manifestations au Venezuela. C'est le peuple vénézuélien qui crève de faim et qui n'en peut plus. Donc, c'est extrêmement important que les latino-américains aient pris conscience de ça. Les États-Unis n'ont rien à voir, en fait, avec la situation au Venezuela.
C'est au
contraire. Parce que, comme souvent, on les rend responsables de tout ça. On nous explique qu'il y a même des plans militaires qui sont en place dans les tuyaux, etc. Paula Vasquez, que peut faire, que doit faire la communauté internationale?
Là, justement, c'est très intéressant la posture de Santos, du président colombien, hier, qui condamne Maduro. Et ça, je pense que ça a été vraiment une surprise que Santos ne
Qu'est-ce qu'il a dit précisément?
Il a dit que les gouvernements vénézuéliens devaient permettre les manifestations en paix et cesser les répressions.
Mais il n'a pas parlé de transition.
Non. Mais il a dit qu'il fallait... Non, parce que c'est que les opposants vénézuéliens, pour le gouvernement vénézuélien, sont des terroristes. Donc déjà dire, ils ne sont pas des terroristes, laissez-les manifester, laissez-les consigner un document au procureur. C'est la demande de la manifestation du 19 avril. C'était consigner un document au procureur. C'est pas la transition dont on parle. Donc c'est ça.
Le mot ça. De transition est proscrit. L'Edesma a été arrêté parce qu'il a osé parler de transition à la démocratie.
Mais il y a une
autre
chose.
Alors que la transition, c'est pacifique.
Et par rapport aux États-Unis, c'est très intéressant parce que je ne sais pas si vous avez vu hier, dans les Guardian et le País et toute la presse internationale a diffusé cette nouvelle de l'AFP d'ailleurs. C'est la preuve, et c'est une source qui vient d'ailleurs des États-Unis, que la compagnie pétrolière vénézuélienne aux États-Unis, Citgo, a financé la cérémonie des prises de possession de M. Trump avec un demi-million de dollars. Donc, Maduro a financé Trump plus que Google. Et ça, c'est la news de Guardian. Bon. C'était hier, c'était vraiment quelque chose qui a laissé... Oui, bien sûr, ils sont trumpistes, ils ont toujours été. Ils détestaient Hillary Clinton, ça c'est sûr. Ils ont et ça, on l'avait vu déjà avec Samuel Moncada, que c'était les diplomates vénézuéliens à la OEA. Lorsque les diplomates mexicains à la OEA lui a dit « Je pense que le Mexique prend position pour une sortie démocratique au Venezuela de cette crise », qu'est-ce qu'il a dit ? « C'est bien fait qu'on vous fasse un mur, monsieur. » Un Vénézuélien qui dit ça à un Mexicain. Donc c'est vraiment là, c'est mettre sur les dos toute la diplomatie latino-américaine. Santos, le Chili... aussi, Michel Bachelet a appelé son ambassadeur à Santiago, donc c'est vraiment la crise et ils ont dilapidé les capitales politiques de Chavez, c'est sûr. Escribir esta excisión, una bella evocación en mi corazón sentía.
Merci beaucoup à tous nos invités. Marc Sémot, évidemment, du Monde, comme chaque vendredi. René Frigosi, dont je rappellerai le dernier ouvrage, Les Nouveaux Autoritaires, Justiciers, Censeurs et Autocrates. Et un grand merci à vous, Paula Vasquez, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé. Je rappellerai vous le chavisme, un militarisme compassionnel. Pour le compassionnel, c'était avant. Aujourd'hui, la compassion, on l'a laissé
tomber. Oui, ça c'est fini. Là, c'est l'acharnement.
Merci plutôt. Beaucoup, Paula Vasquez.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Florian Delorme.
C'est l'heure du Monde des Idées. Depuis mardi, vous nous parlez d'un livre, le nouveau livre de David Goodhart, The Road to Nowhere. Avons-nous épuisé le sujet ou pas tout à fait, Brice ?
Certes non, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, tant sont nombreux les sujets abordés par cet essayiste sans œillères et courageux. Mais voilà qu'on découvre que Goodhart, fondateur et directeur du magazine d'idées Prospect de 1995 à 2010, signe ce mois-ci un article dans la revue Standpoint. Alors pour vous poser le décor, Standpoint, c'est un peu le concurrent conservateur de Prospect que Goodhart faisait naviguer dans les parages du New Labour quand il en était le directeur. Alors l'article en question est consacré à un livre intitulé Transforming a Broken Refugee System. Il est signé d'Alexander Betts et de Paul Collier. Ce dernier est un économiste renommé, enseignant à Oxford où il dirige le Centre d'études économiques de l'Afrique. Et si Goodhart se montre si enthousiaste, c'est que ces deux auteurs défendent sur le sujet les réfugiés, des positions qui coïncident largement avec les siennes. Alors pour les résumer d'un mot, l'Europe a tort d'accueillir ses réfugiés sur son sol, comme l'ont fait les Allemands ou les Suédois en 2015. Elle devrait plutôt protéger à distance les populations menacées du Sud, en consacrant notamment une part plus généreuse de leur richesse à l'aide au développement. Dans le chapitre 4 de son propre livre, donc The Road to Nowhere, To Somewhere, Goodhart accuse les gens de partout et de nulle part d'avoir forgé le mythe d'un monde contemporain entré dans une ère de grande transhumance liée à la mondialisation. Oui, il y a de grandes migrations, reconnaît-il, mais elles sont essentiellement internes aux pays du Sud. Les ruraux émigrent vers les villes, comme les Européens l'ont fait autrefois. En réalité, le pourcentage de la population mondiale vivant en dehors de son pays de naissance demeure très faible, 3,3%. Et dans l'immense majorité des cas, il s'agit d'un pays voisin. Il n'y a pas de grande migration vers les riches pays du Nord. Mais les grandes institutions spécialisées dans le secours aux migrants et aux réfugiés ont intérêt à le faire croire. comme aussi d'ailleurs les partis xénophobes qui prospèrent sur la crainte d'une invasion largement fantasmatique. Il n'en demeure pas moins que 32 incidents significatifs récemment intervenus ont provoqué la fuite hors de leur foyer de 65 millions de personnes et que 21 millions d'entre elles ont trouvé refuge dans un autre pays que le leur, mais moins de 10% d'entre elles dans les pays du Nord.
Oui, la grande majorité des exilés syriens a ainsi trouvé refuge dans ces immenses villages de toile, de Turquie, de Jordanie, souvent situés dans des zones arides, désolées.
Oui, c'est ce qu'on appelle dorénavant des silos humanitaires. Et ces villes de toile et de carton où s'entassent des millions de réfugiés au Moyen-Orient ont leur pendant dans d'autres pays comme l'Ouganda, le Kenya, l'Iran et le Pakistan auxquels nous nous intéressons beaucoup trop peu. Et pour Betts et Collier, le scandale, c'est qu'il leur est interdit de travailler. Interdiction qui mine leur autonomie et leur dignité. Les institutions humanitaires ne s'adressent, écrivent-ils, qu'à leur vulnérabilité. Elles s'efforcent de répondre à leurs besoins les plus basiques, un abri et de la nourriture. Or, il faudrait surtout les aider à préserver leur potentialité, car c'est grâce à leur talent et à leur qualification qu'ils pourront un jour reconstruire leur vie et peut-être aussi leur pays. Dans les camps de Dadaab au Kenya s'entassent ainsi depuis les années 90 350 000 Somalis. Il leur est interdit de travailler. Quelle erreur! En Ouganda, où les réfugiés ont acquis ce droit de travailler, 21% d'entre eux ont créé des micro-entreprises et à Kampala, la capitale, ils emploient 40% d'Ougandais. Partout, les plus entreprenants cherchent en effet à échapper au camp afin de travailler illégalement dans le pays d'accueil. Une fraction d'entre eux, c'est vrai, ira jusqu'à risquer sa vie en s'embarquant vers l'Eldorado européen. Mais, préviennent Betts et Collier, depuis la crise de 2015, les opinions publiques européennes sont devenues très majoritairement hostiles à l'immigration non contrôlée et les politiques seront de plus en plus obligés d'en tenir compte. En outre, il n'est pas dans l'intérêt des pays qu'ils ont dû provisoirement abandonner, de les perdre pour de bon. Or, ce sont souvent les mieux pourvus en compétences et en argent qui parviennent à s'embarquer précisément. Les deux auteurs considèrent que la politique d'accueil d'Angela Merkel a été une erreur. Sur le demi-million de Syriens qui sont entrés en Allemagne en 2015, seuls 10% ont fini par trouver un emploi, généralement en bas de l'échelle, dans les services à la personne. L'économie allemande, on le sait, est basée sur un très haut niveau de qualification qui requiert des années de formation professionnelle qui commence dès la fin du lycée. En réalité, selon nos deux auteurs, la tendance spontanée des hommes à échanger fait que même dans les camps de réfugiés se crée spontanément un micro-marché vente à la sauvette colportage. Mais la situation d'extrême différence en termes de pouvoir de marché entre acteurs économiques nationaux et réfugiés accroît considérablement la vulnérabilité de ces derniers. Ils sont fréquemment exploités comme travailleurs clandestins par des réseaux. Il faut donc les aider en rétablissant un équilibre économique. Au lieu de considérer les réfugiés comme un fardeau inévitable et de passives victimes qui doivent simplement bénéficier de l'aide humanitaire, il faudrait plutôt les considérer comme des acteurs du développement, leur rendre du pouvoir et de la dignité, les aider à reprendre le cours normal de leur vie.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut évidemment retrouver sur le site internet de France Culture. Vous nous rappelez le titre de l'ouvrage de David Gunhardt ?
C'est The Road to Nowhere.
Merci beaucoup Brice, on se retrouve évidemment lundi dans un très court instant sur France Culture. C'est La Grande Table avec Olivia Jesbert.